l'international, on va passer davantage au national. Mon intervention aujourd'hui s'inscrit dans la foulée d'une question que quelqu'un m'a posée lors d'une conférence que je prononçais mardi dernier cette semaine. Mardi avait lieu la rencontre annuelle de l'Association des libraires du Québec. Il s'agit d'une rencontre interprofessionnelle, donc toutes les principales associations de l'écosystème du livre au Québec étaient présentes, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, bibliothécaires, responsables de coopératives scolaires, collégiales et universitaires, de même que le ministère de la Culture et, bien évidemment, la SODEC. Le thème de la journée était « Pratiques et politiques inspirantes du livre d'ici et d'ailleurs ». Ma conférence présentait les grandes lignes d'un rapport que j'ai remis en février dernier au ministère de la Culture et qui porte sur une évaluation de la loi du livre et ses impacts sur l'écosystème du livre au Québec, ainsi que sur les enjeux associés au livre numérique au Québec et ailleurs dans le monde. Alors, suite à ma présentation, une des dernières questions qu'on m'a posées était, je dirais, un peu pessimiste, dans la mesure où la personne se questionnait sur la possibilité même de l'existence d'une politique nationale du livre à l'ère du numérique, sous-entendant, bien évidemment, l'abolition des frontières étatiques, ainsi que les institutions et instruments comme l'OMC. Et la personne de pointer également une décision récente du Bureau fédéral de la concurrence concernant des ententes conclues entre quatre éditeurs importants, notamment au Canada anglais, Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster, et certains détaillants afin de fixer les prix des livres numériques à un certain niveau. Le Bureau a conclu que cela diminuait considérablement la concurrence et empêchait les détaillants de réduire le prix des livres numériques en offrant par exemple des rabais. Alors, les quatre éditeurs devront dorénavant se plier à cette décision et la personne de conclure qu'un autre palier de gouvernement pourrait éventuellement invalider certaines lois provinciales. Alors, dans les deux cas, il est question de la possibilité et de la légitimité même d'une politique provinciale. Ma réponse a été de démontrer qu'au contraire, le Québec possédait l'entière liberté de légiférer sur le livre de façon générale et sur le numérique de façon plus spécifique. Alors, revenons à la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Je crois que la loi du livre, de même que les enjeux associés au numérique, constituent un cas de figure particulièrement intéressant et susceptible d'alimenter nos réflexions concernant la thématique de cette table ronde. Alors, bref rappel, la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, dite loi du livre ou loi 51, encadre l'industrie québécoise du livre depuis 1981. Elle a trois objectifs principaux. Premièrement, l'établissement d'une infrastructure professionnelle, commerciale et industrielle qui reflète la spécificité culturelle du Québec, qui préserve son héritage culturel, donc développement des entreprises à propriété entièrement québécoise et qui soient de qualité et concurrentielles en créant des conditions économiques favorables pour les entreprises du secteur du livre. Deuxième objectif, la diffusion de la littérature québécoise, l'expansion des marchés existants et la création de nouveaux marchés. Et troisième objectif, l'accessibilité physique et économique du livre partout sur le territoire et dans tous les milieux, en contrant les abus possibles, notamment par l'implantation d'un réseau de librairies agréées partout au Québec et par une stabilisation ou une augmentation modérée du prix du livre. Alors, afin de répondre à ces objectifs, la loi a instauré un système que l'on pourrait très globalement résumer à trois volets ou trois piliers. Le premier concerne l'agrément et il est, je dirais, similaire à d'autres mesures que l'on retrouve au sein d'autres industries culturelles, comme le cinéma, par exemple. Il stipule qu'une aide étatique pourra être octroyée à une entreprise de propriété québécoise possédant l'agrément, celui-ci étant, bien entendu, conditionnel à la propriété dite québécoise. La loi avait à cet égard clairement pour objectif de freiner la percée assez fulgurante d'entreprises étrangères au Québec, notamment durant les années 70, l'exemple le plus connu étant celui de la française Hachette, qui, outre ses activités de distribution de son catalogue français au Québec, en était même venu par le biais de diverses alliances avec des acteurs québécois à mettre la main sur la florissante librairie Garneau, qui possédait à l'époque de nombreuses succursales un peu partout au Québec. Les effets de cette mesure furent spectaculaires, avec une croissance importante du nombre d'éditeurs et de libraires durant les 30 dernières années. Le second volet est particulièrement original et, contrairement au premier, ne se retrouve à peu près pas au sein d'autres politiques touchant les secteurs culturels ou des industries culturelles. Il s'agit de la territorialité, et plus précisément de ce que j'appellerais une territorialité régionalisée. En effet, la loi oblige ce qu'on appelle les collectivités, c'est-à-dire essentiellement les établissements publics, au premier chef les bibliothèques scolaires, secondaires, collégiales, ainsi que les bibliothèques publiques, à s'approvisionner de livres auprès de librairies de leur propre région administrative. Sont exclus de ce dispositif les bibliothèques universitaires, de même que les manuels scolaires. Les effets de cette mesure ont été bien évidemment les plus visibles en région, assurant aux libéraux indépendants des revenus compensant la faiblesse démographique. Cela fait en sorte que la part des revenus provenant des collectivités est dans la plupart des cas supérieure à 50 % et peut même atteindre chez certains libraires de 70 à 80 % de l'ensemble de leurs revenus, le reste provenant de la vente au grand public. Cela n'est pas sans poser certains problèmes de dépendance aux institutions, dont je traite dans mon rapport, mais cela est une autre question. Qui plus est, la grande bibliothèque, BANQ, a également intégré un tel volet territorialisé dans sa politique d'achat. 50 % de ses acquisitions proviennent de librairies montréalaises, l'autre 50 % du reste du Québec, avec un principe rotatif entre les diverses régions. Le troisième pilier concerne la littérature en général et québécoise plus spécifiquement. L'agrément vient avec l'obligation de tenir un fonds, un catalogue de plusieurs milliers de titres. Cette mesure avait, et a toujours comme objectif de garantir une diversité de livres, une bibliodiversité pour les lecteurs. Et dans ce fonds, une partie non négligeable, que l'on peut globalement estimer aujourd'hui à 30 % est constituée de livres québécois. Alors, la loi possède bien évidemment de nombreuses autres mesures et elle possède bien entendu ses lacunes ou l'absence d'éléments afin de répondre à des enjeux devenus 30 années plus tard importants. Un exemple étant la concurrence accrue des grandes surfaces, ainsi que, et on l'oublie souvent, des autres points de vente, épiceries, pharmacies, dépanneurs qui sont littéralement en explosion durant les 5 dernières années. Un autre étant la part de plus en plus importante au sein même des librairies de la vente de produits autres que le livre, papeterie, calendrier, jouets, friandises, etc., qui peut parfois atteindre 60 % de l'ensemble du chiffre d'affaires des librairies, notamment les librairies à succursales. Un autre problème est l'achat par certaines bibliothèques, notamment scolaires, ignorant même la loi, de livres dans une autre région, le plus souvent Montréal, ou au sein même des grandes surfaces. Les problèmes de succession pour les libraires au sein des librairies, notamment indépendantes, sont également importants. Et on l'a évoqué ce matin, la gestion d'un catalogue immense, vraiment faramineux de livres, est extrêmement pénible, parfois même au quotidien. Mon mandat incluait bien évidemment l'identification de ces lacunes ou absences. Mais ce qui est important, c'est que la loi, à mes yeux, a véritablement créé un précédent, aujourd'hui bien institutionnalisé et qui fait consensus pour tous les acteurs du livre. Elle a, je dirais, su composer un équilibre qui n'est pas parfait, mais tout de même un équilibre entre les enjeux économiques et commerciaux d'une part et les enjeux culturels. Alors, le numérique dans tout cela. Bien, théoriquement, on pourrait proclamer la fin de la loi 51 à l'ère du numérique. Premièrement, le numérique possède un fort potentiel, comme on le sait, de déterritorialisation. Or, comme je viens de le mentionner, la territorialité est au cœur du dispositif même mis en place par la loi 51. Deuxièmement, de nouveaux joueurs, principalement numériques, concurrencent férocement les librairies physiques. Il s'agit bien entendu d'Amazon et d'Apple dans une moindre mesure. Or, sur ces deux points, les choses évoluent bien différemment, en tout cas au Québec et dans certains pays, notamment européens, que l'on a étudiés dans le cadre de ce rapport. Examinons le premier point. D'abord, il est pour le moins erroné de prétendre que le numérique n'est pas territorialisé. Bien au contraire. Toutes les grandes entreprises, d'Amazon à Apple, en passant par Google ou Netflix, procèdent par territoires nationaux. Et même à l'intérieur des pays, une série de lois votées par de nombreux États américains ont forcé d'ailleurs Amazon à créer des entrepôts physiques ailleurs qu'à Seattle. Un autre exemple, bon, bien entendu, l'Amazon implantée aux Pays-Bas et exempt de certaines taxes lui permet de vendre à bas prix au Royaume-Uni, mais rien n'empêche, de fait, un État, comme l'a fait la France d'ailleurs récemment, d'adopter une loi stipulant que l'important n'est pas l'origine du fournisseur, mais le pays au sein duquel le clic d'achat est effectué. Et à cet égard, Amazon doit se conformer au prix réglementé du livre. Il y aura peut-être des contestations à cet égard, ce sera extrêmement intéressant à suivre, mais la France a posé le geste. Si on revient au cas québécois, ce qui est particulièrement intéressant à observer est que même en l'absence d'une loi ou d'une réglementation concernant le livre numérique, les acteurs de l'écosystème du livre ont spontanément dupliqué le système territorialisé mis en place par la loi 51. Ainsi, les bibliothèques s'approvisionnent auprès de leur librairie régionale pour les livres numériques, alors qu'elles pourraient très bien procéder autrement. Et mon étude montre clairement que tous les acteurs, à l'exception d'un seul, préconisent l'application de l'esprit de la loi 51 au numérique. C'est-à-dire que la loi a créé un précédent et un modus operandi spécifique au Québec. Cela n'existe pas ailleurs au Canada, ni dans de nombreux pays. Ce système, encore une fois, n'est pas sans problème. Il occasionne indéniablement des coûts additionnels, notamment de transport pour le livre physique et de manipulation de traitement par le libraire régional pour le livre numérique, mais le législateur estime que cela compense largement la disparition potentielle de nombreuses librairies indépendantes, de même que la diminution de la bibliodiversité. Passons au second point. L'arrivée de nouveaux joueurs. Ceux-ci bouleversent, bien entendu, la chaîne du livre. Amazon possède les capacités informatiques et logistiques pour court-circuiter tous les acteurs de l'écosystème. L'entreprise offre l'autopublication, plus besoin d'éditeurs, de même que l'autodiffusion, plus besoin de distributeurs ni de libraires. Amazon est en bonne partie responsable, en conjonction avec l'effet des grandes surfaces et des autres points de vente, de la disparition de la plupart des librairies indépendantes au Canada anglais, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ne reste au Canada anglais, hormis quelques exceptions, que les librairies à succursales Chapters Indigo, qui sont en fait la même entreprise, et Amazon et Apple. Chapters Indigo sont d'ailleurs présents maintenant dans la région montréalaise. Amazon a ainsi vendu à perte durant de nombreuses années afin de tuer la concurrence et se rattrape maintenant avec des prix plus élevés et l'obligation d'avoir la liseuse Kindle pour accéder à ses contenus numériques. Le comble est qu'Amazon est en train de constituer aux États-Unis tout un réseau de librairies physiques Amazon. Qui plus est, Amazon propose maintenant un service de prêt de livres numériques concurrençant de la sorte les bibliothèques. Or, que s'est-il passé au Québec? Il est clair que la présence d'Amazon et d'autres fournisseurs comme l'Apple iBook Store, et je rappelle un des slogans d'Apple pour le marché francophone québécois, iBooks, votre libraire, a eu certains effets. Comme on l'a vu ce matin, ils sont cependant, encore une fois, peu présents, contrairement à ce qu'on observe dans le domaine de la musique. Ces entreprises se positionnent comme de nouveaux intermédiaires, menaçant de ce que je qualifie de désintermédiation de nombreux joueurs, au premier chef les distributeurs et les libraires. Or, le marché du livre numérique est encore relativement restreint et petit au Québec, tandis que la consommation de livres numériques dépasse les 20 % aux États-Unis. Elle se situe, on a entendu des chiffres tout à l'heure, entre 1 et 2 % au Québec. Elle double chaque année et les files d'attente pour le prêt numérique en bibliothèque sont actuellement en explosion, notamment à BANQ, mais cela n'est en rien comparable à d'autres pays. Incidemment, on observe dernièrement un ralentissement important du livre numérique chez nos voisins américains. Une partie de l'explication tient sans doute, je dirais, à l'absence d'une offre riche et diversifiée de livrelles aussi bien québécois que francophones en général. Cette offre se développe de plus en plus, mais combien de fois ai-je entendu de personnes de mon entourage dire qu'elles lisaient beaucoup plus de livres en anglais depuis qu'elles avaient fait l'acquisition d'une liseuse? En lien avec cela, et pour un certain nombre de raisons, incertitude concernant le marché du livre numérique, absence de soutien étatique en lien avec la transition au numérique, notamment pour la création de contenus enrichis multimédia de livres numériques, les éditeurs ont pris très lentement, en tout cas graduellement, le virage numérique. L'absence de modèle d'affaires précis, on en a entendu parler ce matin, concernant notamment l'utilisation des fichiers numériques, les redevances, les droits d'auteur, etc., a même freiné la part de livres numériques auprès des bibliothèques qui n'ont pas le choix, comme je le disais, de mettre en place de longues files d'attente. Des discussions récentes visent à régler ces questions. Bref, une culture de consommation du livre numérique ne s'est pas encore vraiment implantée au Québec. Par ailleurs, au vu de la très forte structuration de l'industrie du livre au Québec, effet premier de la loi 51, la tendance des joueurs importants, je pense notamment à Apple et plus récemment à Amazon, a été, après de premières tentatives de contournement, de négocier avec les joueurs locaux, notamment les agrégateurs de contenu, bref, de jouer les règles en place. La loi 51 ne limite pas la concurrence, mais elle encadre très étroitement l'écosystème du livre. Et les acteurs étrangers l'ont, je crois, compris de façon tardive, mais l'ont bien compris récemment. Autre élément important, alors que plusieurs acteurs font face à de la désintermédiation, certains ont clairement affiché une volonté de ce que j'appelle la réintermédiation, c'est-à-dire d'adaptation de leur rôle à l'ère du numérique. C'est le cas des éditeurs qui ont établi un partenariat avec l'agrégateur québécois de marques afin de créer l'entrepôt du livre numérique, des distributeurs qui ont créé leurs propres agrégateurs et des libraires qui ont lancé leslibraires.ca, on en a parlé ce matin, le portail des librairies indépendantes numériques du Québec. Certaines librairies à succursale, au premier chef Archambault, ont également été rapidement très actives. Les défis sont encore nombreux. Plusieurs de ces sites d'achat en ligne sont peu conviviaux lorsque comparés à Amazon et Apple. L'offre de livres numériques enrichis, c'est-à-dire déployant toutes les possibilités du numérique, contenu multimédia, voire même apport du lecteur au contenu, demeure extrêmement embryonnaire. Concrétisation de la stratégie numérique annoncée la semaine dernière par le gouvernement québécois, etc., mais il existe une volonté de la part des acteurs. Alors, en conclusion, ce qui m'apparaît primordial, et cela rejoint Je ferme la boucle de mon introduction. La réponse que j'ai donnée à la personne qui me posait la question évoquée au début est d'occuper le terrain le plus rapidement possible. C'est ce qu'ont fait la France, l'Allemagne, l'Espagne et plusieurs pays scandinaves en intégrant le livre numérique dans leur législation plus large portant sur le livre et, pour plusieurs, sur le prix réglementé. Le livre numérique étant alors considéré effectivement comme un bien, comme un produit culturel et non pas comme un service, exactement à l'image qui vient d'être évoquée par mon collègue précédemment. D'autres éléments demeurent toutefois problématiques concernant évidemment l'harmonisation des législations dans le cadre européen, mais c'est une autre question. Il est donc impératif de préciser le plus rapidement possible une définition du livre numérique. L'incertitude concernant les formes que celui-ci prendra ne doit pas être un obstacle à l'absence de définition. Élément que j'ai entendu parfois dans le cadre des consultations menées pour le rapport. Alors, mon rapport, justement, comporte des recommandations très précises concernant la définition du livre numérique et, évidemment, plus largement, l'écosystème du livre et la loi 51. Et les fonctionnaires et juristes du ministère de la Culture travaillent actuellement à la traduire juridiquement afin qu'elle fasse partie du projet de loi annoncé avant les élections d'un prix réglementé du livre physique et numérique au Québec. Je ne me prononce pas sur ce projet de loi. Je ne suis personnellement pas persuadé qu'il permette véritablement un transfert des grandes surfaces et autres points de vente vers les libraires, et ce, sans l'accompagnement de mesures spécifiques pour les librairies indépendantes, mesures qui sont mises de l'avant dans mon rapport, mais il permettrait à tout le moins d'établir une première définition du livre numérique qui baliserait et encadrerait sur le plan législatif ce secteur en émergence pour en faire véritablement un produit et non seulement un service. Je vous remercie.